Vous recevez ce soir le porte-parole du comité des constructeurs français d'automobiles.
Bonsoir François.
Bonsoir.
Roger. On va se pencher avec vous sur l'évolution dès demain de la prime à la conversion automobile. Les critères d'éligibilité restent, mais ce sont les montants qui changent hein, pour revenir à ce qui se faisait avant le plan de soutien en faveur du secteur. Alors on va les détailler, 2500 à 5000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable selon les revenus, entre 1500 et 3000 euros pour l'achat d'un véhicule critère 1 ou 2. De nouvelles règles moins généreuses donc, vous le regrettez ?
Alors pas vraiment, parce qu'en fait, ce qu'on voulait surtout nous tenir, c'était les bonus pour les véhicules électriques hein, ou hybrides rechargeables. Parce que c'est très important, on lance ce marché. On avait difficilement obtenu cela au début de l'année d'ailleurs, parce que l'année dernière c'était assez dur avec le gouvernement. Et là, c'est maintenu, c'est très bien. Pour la prime à la conversion, il faut voir qu'il y a eu un effort spécifique qui avait été fait pour déstocker les 400 000 voitures qui avaient été bloquées, puisque on avait tout arrêté au moment où on lançait nos grandes opérations commerciales du printemps. Donc, ça a bien fonctionné, ça va sur sa lancée, ça va continuer. Après, on revient à une prime à la conversion plutôt normale. Écoutez, c'est pas si mal que ça, ça tient encore sur les véhicules thermiques, mais ça va pas fausser complètement les termes du marché.
Ouais, cette prime à la conversion, elle vaut aussi pour la transformation d'un moteur thermique en un moteur électrique. Alors, pour vous, constructeur, c'est peut-être pas forcément la mesure la plus intéressante, mais est-ce que c'est quand même une option que vous surveillez ?
Oui, c'est même une option qui dans laquelle investissent mes constructeurs. Hein, il y a déjà des points là-dessus. Alors, c'est compliqué parce que moi, je ne crois personnellement pas vraiment à un grand marché de volume sur cela. Mais sur des véhicules très haut de gamme, pourquoi pas ? En particulier sur des véhicules de collection où si vous avez un problème de moteur qui coûte trop cher à réparer, là vous mettez un moteur électrique et ça vous fait un super véhicule. Donc il y a sûrement un marché de niche, il y a beaucoup d'acteurs, je pense que ça va s'éclaircir un petit peu, mais ça va pas remplacer globalement, vu le coût du système, et puis en fait aussi le problème de l'adaptation des véhicules thermiques à une batterie. Une batterie, c'est lourd, le système, ce qu'on appelle nous le couple, c'est-à-dire en fait l'accélération au départ d'une électrique, c'est 100%, donc le freinage est différent, donc c'est quand même techniquement assez compliqué pour des petites voitures.
Alors François Roudier, vous évoquiez un stock de 400 000 véhicules accumulés pendant le confinement. Il y a eu 200 000 primes à la conversion qui sont parties en deux mois. Ça a été un vrai succès. Ça veut dire qu'il vous reste encore de la marchandise sur les bras aujourd'hui ?
Non, c'est parti aussi. Hein. C'est-à-dire que c'est parti sans primes à la conversion. Vous avez eu en fait un triple effet hein, sur ce marché. C'est que vous avez eu d'abord cette prime à la conversion qui a bien fonctionné. Des consommateurs qui étaient frustrés parce qu'ils étaient bloqués chez eux et ils avaient besoin d'acheter leur véhicule. Et puis, une bonne santé économique. Et c'est ce qui nous a le plus surpris d'ailleurs, c'est que les ventes aux professionnels sont restées très élevées, y compris sur les véhicules utilitaires légers, les camionnettes. Alors ça, c'est un très bon indicateur. Si vous n'avez pas d'activité, vous n'achetez pas de VUL. Et là, ça a très bien fonctionné. Et on sait que certains canaux de vente qu'on appelait nous tactiques, comme les pas très rentables, hein, les loueurs longue durée ou courte durée, ont disparu. Les Hertz, Europcar, Avis sont de sérieux problèmes.
Oui, qui ont connu des situations de faillite, notamment clients. Avec la crise.
Voilà, vous avez des vrais clients qui sont allés vers la voiture. Et là, je vous parle des véhicules neufs. Et sur l'occasion, là aussi, ça a été un boom incroyable. Mmh. Les Français voulaient leur voiture pour partir en vacances.
En termes de chiffres ?
On est à plus de trois voitures d'occasion pour une voiture neuve de vendue. Alors et vous, ça continue.
Vous dites avoir été surpris. Les chiffres qui ont été dévoilés hier, plus 4% d'augmentation de vente, enfin d'immatriculation pour ce mois de juillet, ça aussi, ça vous a surpris ?
Oui, parce que on partait sur un mois important. Il y avait un jour en moins par rapport au mois de juillet de l'année dernière. Hein, en chiffre équivalent, on serait à 8%. Hein. Donc on voit qu'il y a vraiment une dynamique sur le véhicule. Alors, nous, on l'explique aussi par une orientation qui est complètement différente de ce qui se passait avant le Covid. C'est une orientation vers le transport individuel. Hein, c'est très amusant de voir que voiture
on
et vélo...
On s'éloigne des transports en commun
totalement,
et on privilégie le transport individuel.
Totalement. Et c'est le boom du vélo, le boom de la voiture pour partir en vacances. Enfin, les embouteillages d'hier étaient assez mémorables, je crois que vous les avez bien expliqué.
Les loueurs ont connu aussi beaucoup de succès, beaucoup de demandes pendant cet été.
Voilà. Donc vous avez ça. Vous avez sûrement aussi un achat de voiture parce qu'on va quitter le centre-ville, parce qu'on va passer au télétravail. dans les grandes périphéries des villes. Hein, le Bon Coin vous dit que sur le premier mot consulté, c'est maison campagne, maison piscine. Voilà. Donc, on est dans un changement complet. Qui est d'ailleurs très lié à la géographie française. Mmh. Hein.
Les constructeurs ne s'en sortent pas tous de la même façon, quand même, les constructeurs français. Les chiffres dévoilés hier sont assez contrastés selon les constructeurs. Renault tire son épingle du jeu, contrairement à PSA.
Non, c'est le contraire.
C'est le contraire. autant pour moi. C'est le contraire. Mais les constructeurs étrangers sont toujours, pour les constructeurs français, une source de concurrence, évidemment.
Alors oui, c'est une sainte émulation. Hein. Ouais. L'automobile, c'est même un marché de tuerie. Hein. Il y a pas d'amis hein, dans l'auto, et on le voit parce que vous avez des groupes qui commencent à faiblir sérieusement. Hein. Je pense à Jaguar Land Rover, par exemple, parce qu'ils n'ont pas pu investir à temps dans des technologies de motorisation électrique, et ils souffrent terriblement. Les groupes allemands, qui étaient plutôt sur du haut de gamme, grosse motorisation, ont du mal à se convertir vers des voitures un peu plus petites qui se vendent bien. Alors les Français avaient cette spécificité, hein, ou ce handicap par rapport aux voitures qui se vendaient cher, et les gros SUV en particulier. Ce qu'on voit, c'est que chez nos Français, il y a deux situations assez différentes. Hein. Renault avait commencé sa restructuration bien avant la crise du Covid, et Renault a été sérieusement handicapé par les résultats de Nissan cette année.
7 hein, milliards d'euros de pertes voilà, annoncées cette semaine par Renault.
Voilà, 7 milliards de pertes, dont quasiment 5 milliards par Nissan, qui avant était la vache à lait du groupe. PSA a été profitable, PSA a mis en place une machine absolument remarquable dans le monde de l'automobile. Actuellement, ils sont vraiment cités en exemple, hein, et dans le deal futur avec Fiat Chrysler, ça compte énormément. Et le nouveau DG de Renault, Luca de Meo, hein, qui vient du groupe Volkswagen. Alors Luca de Meo, c'est un sacré type, hein, comme on dit, c'est un car guy, c'est lui qui a lancé la Fiat 500. Alors vous voyez, c'est plutôt un bon critère.
Vous avez l'air confiant.
Luca de Meo, il va faire comme PSA.
Vous avez l'air confiant donc pour l'avenir des constructeurs français malgré ces mois compliqués.
Oui, parce qu'on a des constructeurs qui sont des constructeurs mondiaux maintenant. Si vous voulez, on n'est plus dans dans un PSA et Renault des années 80. On est dans un PSA qui va bientôt se marier avec Fiat Chrysler.
Ouais, donc, ce sera en début d'année prochaine,
donc ça va s'appeler Stellantis. Mais bon, Stellantis, ça va être le nom de la holding. On aura toutes les marques qui vont avoir leur propre nom. Donc, une vision mondiale. Vous avez Renault qui a resserré finalement les liens avec Nissan, Mitsubishi, avec Daimler aussi, qui est une partie du capital. Et puis Renault, qui, ne l'oublions pas, est devenu un constructeur vraiment mondial. Hein. La première voiture française, là où on vend le plus de voitures françaises après la France, c'est en Russie. Mmh. Hein, Lada appartient à Renault. Donc ça donne quand même une grande surface mondiale qui va permettre de changer le système.
Donc la prime à la conversion, encore une fois, puisqu'elle va être maintenue pour les prochains mois, elle va continuer pour vous de porter aussi ce marché.
Alors, un petit peu. Il faut savoir que les conditions sont assez difficiles, et l'objectif, c'est quand même d'aider les ménages modestes et même pauvres, alors sans critique aucune, c'est pauvre au sens de l'INSEE, 900 euros par mois, à changer de voiture. Il faut savoir quand même que ces ménages sont 2 millions. Représente 2 millions de personnes motorisées en France, avec des véhicules anciens, pas forcément très sûrs, pas forcément au contrôle technique parfait. Mmh. Parfait. Tout ça, c'est un vrai enjeu sociétal qui, nous, constructeurs, nous dépasse. On peut aider, mais pas forcément jusqu'à ce point-là.
Merci beaucoup, François Roudier, porte-parole du Comité des constructeurs français d'automobiles, d'avoir été en studio avec nous ce soir. Bonne